Bonjour à tous. Ce matin, nous allons continuer la prédication de vendredi passé sur le sermon sur la montagne. Je vous invite à prendre Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. On va refaire la lecture. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Des collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Jésus dit que les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Alors, ça nous montre que, contrairement à ce que certains pensent, eh bien, les hommes et les femmes déchus sont capables d'amour. Un homme déchu n'est pas incapable de faire le bien, s'il est capable d'amour. Alors, qu'est-ce que Jésus vient nous dire quand il nous dit que sans lui, on ne peut rien faire? Vous voyez qu'il faut comprendre les choses. Il veut dire que sans lui, on ne peut pas faire quelque chose qui plaise à Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Jésus, il nous dit « Je suis la vigne ». Vous vous rappelez, je vous ai enseigné ça il n'y a pas longtemps. Et il dit que nous sommes les sarments, que nous sommes fixés sur lui. Et que la vie de la vigne passe dans les sarments et c'est ce qui lui permet de porter du fruit. C'est-à-dire des résultats. La sève, la vie, elle passe en nous, elle nous permet de porter les fruits que Dieu veut. Jésus explique ça dans cette parabole de la vigne, qu'on trouve aussi dans Jean 15, 5, pour ceux qui n'ont pas écouté la prédication il y a quelque temps. Une personne qui n'est pas greffée sur Jésus, elle ne peut pas porter le fruit que Dieu veut récolter, que Dieu apprécie, même si cette personne agit avec amour. Je vais développer tout ça. Pour aller plus loin, Jésus dit même que tout sarment qui, en lui, ne porte pas de fruits, il l'enlève. Terrible. Alors, c'est quoi la sorte de fruit que Dieu attend de nous? Il veut que ce soit un fruit extraordinaire. Il le dit, il dit, si vous aimez comme les pécheurs aiment, alors il prend des cas qui sont très choquants pour les juifs à l'époque, les collecteurs d'impôts, et, il y en a que ça choque encore les collecteurs d'impôts, et les non-juifs, parce que pour les juifs à l'époque, les non-juifs c'était vraiment rien. C'était leur culture, on les enseignait comme ça, que voulez-vous? Et il y a un amour extraordinaire. Par exemple, l'amour d'un homme pour une femme, est-ce que c'est extraordinaire? Non. D'après Jésus, c'est ordinaire. L'amour des parents pour leurs enfants, c'est ordinaire. L'amour d'un enfant pour ses parents, c'est ordinaire. L'amour qu'on peut avoir pour un ami, c'est ordinaire. L'amour d'un homme, d'une femme pour son pays, c'est ordinaire. Voilà, en gros, hein. Pour donner le cadre. C'est de l'amour ordinaire. Ça peut être héroïque, mais aux yeux de Dieu, c'est ordinaire. Aux yeux de Dieu, c'est normal. C'est normal qu'on aime ses enfants, c'est normal qu'on se sacrifie pour eux, c'est normal qu'on aime ses parents, c'est normal qu'on se saigne aux quatre veines pour eux, c'est normal qu'on aime ses amis, c'est normal qu'on fasse tout pour eux, c'est normal qu'on aime son pays, c'est même normal qu'on aille mourir pour son pays. Jésus fait comprendre aux Juifs qui qualifiaient les non-Juifs de chiens que les chiens, ils sont capables d'amour et que cet amour-là, il est normal. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire si vous aimez comme les chiens, comme les non-Juifs? Il y a donc deux amours, l'amour ordinaire et l'amour extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être capable d'amour ordinaire. L'amour ordinaire, il est humain, il est normal. Et il est toujours teinté d'impureté, c'est-à-dire il y a des intérêts humains. nos intérêts humains ne sont pas les intérêts divins. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Quand on dit on amour, l'amour est désintéressé, arrêtez. On est content d'être aimé, on est content d'aimer, on a un intérêt à être aimé, on est très malheureux quand on n'est pas aimé. On a donc un intérêt à être aimé, il ne faut pas venir me raconter des histoires. L'intérêt humain peut être absolument honorable. Les gens qui aiment parce qu'il y a du pognon, ou les gens qui aiment parce que ça, ils se font valoir parce qu'ils sont à côté d'une star ou de quelque chose, ça c'est débile. C'est pas de ça dont je parle d'un intérêt qui est honorable. Il y a un intérêt dans l'amour humain qui peut être honorable. Un homme qui meurt, par exemple, pour son pays, qui se sacrifie à la guerre pour son pays, c'est un acte d'amour pour son pays, pour l'intérêt de son pays. C'est honorable. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est un amour que Dieu puisse récolter pour son intérêt éternel. Mourir pour notre pays, le pays, c'est pas éternel, hein. Même ça. Vous voyez, ça peut peut-être vous choquer ce que je dis là. Mais il faut comprendre ce que Jésus dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pourtant, les païens, ils sont capables d'amour. S'ils sont capables d'amour, ils peuvent faire des tas de choses bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Alors, je vous donne ce que le Seigneur m'a donné. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Jésus dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Ok. Qui est le vigneron? C'est Dieu. Qui est celui qui veut récolter du fruit? C'est Dieu. C'est Dieu qui veut une certaine sorte de fruit. Il ne va pas chercher ailleurs. Il est là, le propriétaire de cette vigne, et il veut les fruits de cette vigne, et il ne veut rien d'autre. On sait qu'il y a autre chose que la vigne. La Bible nous dit que dehors de la vigne, il y a des petits renards, qui sont aussi capables d'amour entre eux. Et puis ces petits renards, ils font des trous dans les murs de la vigne pour rentrer et pour dévorer ce qu'il y a dans la vigne. Est-ce que Dieu est content de ça? Non. Même si les petits renards, ils viennent chercher des raisins pour les apporter à leurs petits, c'est un grand geste d'amour. Mais Dieu n'aime pas du tout ça. Vous voyez? C'est Dieu qui veut récolter sur sa vigne. L'amour que nous sommes appelés à manifester doit être désintéressé humainement parlant. Mais ça ne veut pas dire que c'est un amour sans intérêt. L'intérêt qu'il y a dans l'amour que nous devons manifester, il doit revenir à Dieu qui vit en nous aussi. On en prend quelque chose, on est bénéficiaire d'une part aussi puisque Dieu vit en nous. Il ne faut pas perdre ça de vue. Vous aimez ici-bas avec un but éternel. Ce n'est pas un amour sans raison. Cet amour doit être utile à Dieu. Tout ce que nous faisons les uns aux autres, et même à nos ennemis, si c'est fait avec amour selon Dieu, eh bien c'est utile à Dieu. Cet amour divin, il prend sa racine en Dieu, il prend sa sève, il prend sa nourriture dans la racine, en Dieu. Les actes qui découlent de l'amour divin que nous manifestons doivent attirer à Dieu un poids de gloire. Parce que c'est les enfants terrestres qui, les enfants de Dieu terrestres, qui glorifient Dieu devant le monde des esprits. Les bons esprits et les mauvais esprits. La Bible dit que c'est par l'Église que les puissances célestes connaissent l'amour, la sagesse infiniment variée de Dieu. Par qui? Par l'amour que les papas, les mamans païens peuvent donner à leurs enfants? Non, ça c'est normal, c'est de la nature. Mais l'amour divin, un produit divin sur la terre, au milieu de ce cloaque, au milieu de cette horreur, au milieu de cet endroit où le diable mène le bal, c'est ça qui est extraordinaire. Quelque chose de divin là où le diable mène le bal. Tout le secret de l'amour divin se trouve dans le mot que Jésus emploie, le mot extraordinaire. Ça, c'est la clé. En fait, c'est la clé du message de Jésus. Ça doit être extraordinaire. Souvenez-vous, la justice de Jésus, que Jésus attend du disciple, de son disciple, elle doit surpasser celle des pharisiens. Elle ne doit pas être simplement... Et pourtant, celle des pharisiens, elle était terrible. L'amour que manifestent ses disciples doit être plus grand que celui des juifs et des non-juifs. Quand il parle là, il parle des non-juifs qui n'ont pas encore la connaissance de Dieu. À l'époque, les non-juifs n'avaient pas la connaissance de Dieu. Il n'y avait qu'Israël qui avait la connaissance du seul vrai Dieu. Notre amour, il doit dépasser celui des collecteurs d'impôts de cette époque-là. À cette époque-là, c'était des filous notoires. Tout le monde le savait. Mais ils étaient capables d'amour, ces gens-là. Et parfois même d'amour héroïque. Mais ça doit surpasser ça. L'exigence de Jésus, c'est qu'il attend de nous un amour plus grand, une justice plus grande. Je veux un amour hors limite. Je veux un amour extraordinaire. Je veux un amour exceptionnel, inhabituel. Un amour qui étonne les êtres humains, les anges et les démons. Je veux un amour, je veux que vous manifestiez un amour qui est tout à fait singulier, qui est insolite. Je veux que vous manifestiez un amour qui est hors du commun, un amour qui est remarquable. Et le programme ? Extraordinaire. Extra, ça vient du latin qui signifie dehors. Hein, quand on dit extra conjugal, c'est en dehors des liens du mariage. Extra, dehors. Vous êtes dans ce monde, mais j'attends de votre amour qu'il soit en dehors de ce qui se fait dans le monde. En dehors des limites des choses du monde. Je veux un amour miracle. Un amour d'origine miraculeux. Un amour qui vit la vie de Dieu, qui prend sa racine dans le cœur de Dieu. C'est ça que je veux. Jésus veut ça. Un amour qui porte une croix. C'est-à-dire un amour qui offre un sacrifice total à Dieu. Un amour qui se sacrifie pour Dieu, pas pour son pays, pas pour sa femme, pas pour ses enfants. Ça, c'est normal. Un acte dans lequel je n'ai pas d'intérêt personnel. Un acte dans lequel je n'ai même pas un intérêt pour mon propre salut. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous aimions comme lui. Lui, il ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvé. Il veut pas d'un amour humain. Il ne sait pas quoi faire avec. Il attend de nous la manifestation de l'amour d'un Dieu. Il attend de nous de l'amour de déesse, d'une déesse. Jésus dit, vous donc, hein, dans le texte qu'on a dit, vous donc. Qui c'est vous donc? C'est des fils de Dieu. Des fois, on oublie un petit peu. On dit, dans la mythologie, Apollon était le fils de Dieu, machin, l'autre était les fils de Dieu, les fils des dieux, les demi-dieux. Les tout. Mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Non? Et Dieu attend une manifestation digne de fils et de filles de Dieu. Donc, il dit, vous donc, être divin, soyez parfait. Alors, comme votre Père, il dit, soyez parfait. Aimez comme lui, de la même manière que lui. Vous n'avez pas à imiter l'amour d'un homme, vous n'avez pas à imiter l'amour d'une femme, vous avez à imiter l'amour de Dieu. Ce n'est pas une idée nouvelle. Déjà dans le Lévitique, 5 fois, on trouve cette idée, 5 fois dans le livre du Lévitique, vous devez être saint puisque je suis saint. On trouve ça dans Lévitique 11, 44, Lévitique 11, 45, Lévitique 19, 2, Lévitique 20, 7, et Lévitique 20, 26. 5 fois. Vous devez être comme Dieu. Alors, dans Lévitique, c'est vous devez être saint. Et dans la Nouvelle Alliance, vous devez être parfait. Il y a une raison. Dieu dit par Moïse, soyez saint. Et par Jésus, dit, soyez parfait. Il y a une raison. C'est 2 mots différents. Être saint, c'est être séparé pour être consacré à Dieu. C'est une première chose. Mais être parfait, est-ce que c'est vraiment bien possible? Les gens, ils se trompent parce qu'ils pensent qu'être saint, c'est être parfait. Être saint, c'est être séparé pour devenir parfait. Vous voyez? Vous voyez? Nous pouvons être parfaits au sujet de ce que Jésus dit là dans le texte. Dans le contexte, dans ce qu'il est en train de dire. C'est là-dedans qu'on peut être parfait. Et vous savez, j'aime bien le fait qu'il y ait au moins 4 évangiles. À mon avis, il y en a au moins 5. Il y a aussi l'évangile de Thomas, qui n'a pas été reconnu par les pères de l'Église dans les années 200-300 par là autour, mais bon, tant pis. Moi, je sais que je crois vraiment que l'évangile de Thomas est aussi inspiré que les autres. Vous pouvez voir les commentaires sur Révélation Bible, je dis ça pour Internet et pour la télé. Mais déjà avec les quatre, c'est formidable. S'il n'y avait pas les quatre, regardez par exemple ce que Luc dit au sujet de ce passage dans le Sermon sur la montagne. Il ne dit pas « soyez parfaits comme votre Père est parfait », mais il dit « soyez magnanimes comme votre Père est magnanime ». Alors ça, c'est un mot qu'on n'entend pas au supermarché, hein. Magnanime. Si je demandais, dites-moi, ça veut dire quoi magnanime? Oui, on a bien une petite vague idée de ce que ça peut vouloir dire, mais magnanime. Heureusement, il y a les dictionnaires, c'est pas fait pour les chiens, enfin les chiens que les non-juifs, hein, ou peut-être oui, mais pas les noms. Donc magnanime, ça vient du latin magnus, qui veut dire grand. Hein, vous savez, les magnums, c'est ça qu'un magnum. Et puis animus, qui veut dire esprit. Soyez magnanime, ça veut dire soyez des grands esprits. Comme votre Père est un grand esprit. C'est ça que ça veut dire. Un esprit qui manifeste la bienveillance, un esprit qui manifeste la clémence, un esprit qui manifeste l'indulgence. Soyez un grand esprit, soyez pas un petit esprit mesquin, petit, qui est toujours en train de chercher les histoires, qui est toujours en train de fouiller. Oui, mais ça, pourquoi ça? Petit esprit, ça. Soyez des grands esprits, larges. Soyez grand. Son amour est parfait dans le sens qu'il embrasse tout. Même ceux qui ne lui rendront jamais son amour. Alors quand il veut que nous soyons saints, c'est-à-dire séparés, c'est pour qu'on se mette à le suivre en vue de devenir parfait. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est pourquoi vous serez séparés. Séparés de quoi? Ben de toute l'Égypte, de tous les autres peuples. Je ne veux pas que vous fassiez comme eux, vous êtes séparés. Pour me suivre, moi, je suis saint. Vous trouvez ça dans le Lévitique. Et Jésus nous donne une autre dimension, une nouvelle dimension. Il dit, vous avez été sanctifiés par Dieu, maintenant, soyez parfaits comme lui. Et lui, ce que vous suivez, il est aux cieux. C'est-à-dire que l'origine de votre perfection, elle ne vient pas de la terre, elle ne s'inspire pas des choses de la terre, elle ne s'inspire pas des pratiques, des coutumes et des trucs. Non, non, ça vient du ciel. Verset 45, verset 48, deux fois il dit « au ciel, céleste, votre Père céleste ». Ça signifie qu'il nous a rendus capables d'obéir avec le cœur et que cette obéissance, elle émane de notre cœur, elle sera la manifestation de notre appartenance à la famille céleste. Non pas à une famille humaine, de religion. Cette obéissance, cet amour qui embrasse tout, sans exception, procurant la paix, ça vient du fait que la loi est gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et que la vie même du Saint-Esprit, elle est en nous, et cette vie même, elle passe en nous pour produire ce fruit, un amour inconditionnel, sans intérêt autre que celui de Dieu. Voilà l'amour que Dieu veut. Voilà ce qu'il veut. Alors vous vous souvenez, au début il dit « Ne résistez pas aux méchants ». On appelle ça, en théologie, un commandement négatif. Ne pas, ne pas, ne résistez pas. Et puis là, plus loin, il passe à un commandement positif. Aimez vos ennemis. Cherchez à leur faire du bien. C'est un commandement positif. Et ça a son importance. Ce n'est pas écrit comme ça par hasard. Ce n'est pas n'importe quoi. Parce qu'on peut apprendre, mes frères et sœurs. On peut apprendre. On peut se discipliner. On peut faire des efforts et y arriver. On peut apprendre à attendre l'autre jour sans savoir comment aimer celui qui nous frappe. Ça, c'est vrai. Ça s'appelle la sanctification à l'huile de coude. On s'efforce de faire ce que Jésus dit, mais on n'aime pas vraiment. On manifeste des signes extérieurs d'amour. C'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Un théologien du nom de Plumer, Alfred Plumer, il a dit une chose fantastique. Et ça, il faut apprendre ça, il faut même l'écrire, en gros, comme dans l'Avare, vous savez, en gros, on va écrire sur la cheminée en lettres d'or. Rendre le mal pour le mal, c'est diabolique. Rendre le bien pour le bien, c'est humain. Et rendre le bien pour le mal, c'est divin. Magnifique, hein? Plumer. Alors, quel amour le monde manifeste-t-il? Eh bien, deux sortes. Un amour diabolique et un amour humain. Il y a un amour diabolique. Et les gens, ils se sentent plus ou moins quittes avec ça. Ils connaissent que ça, hein? Ils n'ont pas l'inspiration pour l'autre. Ils n'ont pas le pouvoir pour l'autre. Ils n'ont que ça. Ils se sentent plus ou moins donc quittes avec ça. Et je ne dois rien à personne, personne ne me doit rien, je suis tranquille. En gros, c'est ça. Hein? C'est ce qui tient le monde dans une espèce de forme d'équilibre précaire, mais ça tient quand même une espèce d'équilibre, cette espèce d'amour-là. Les orgueilleux ne supportent pas d'être redevables à quelqu'un. Ça tient une espèce d'équilibre. C'est bien que ça soit comme ça. Mais bon, c'est quand même entaché d'un intérêt personnel. Moi, je ne veux pas que... C'est la forme de la justice du monde. Et pour faire régner un esprit d'ordre, alors chacun cherche à ce que les autres ne tirent pas trop non plus d'eux pour maintenir un équilibre. Eh bien, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas du tout comme ça dans le royaume de Dieu. Les gens de ce monde, ils ne savent pas faire autrement. Alors, c'est bien pour eux, c'est super. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire si vous faites que ça? Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Jésus dit, mais vous donc, vous, je vous montre un modèle, je vous montre le modèle du Père, qui est bon avec les méchants, qui est bon avec les bons. Et ça, c'est le modèle. Dieu, il donne, mais il prend. Il est juste. Et c'est toujours par amour de son nom. Pour nous, mais pour la gloire de son nom. Qu'on vient de me dire le contraire. Mais nous portons son nom. Nous sommes de sa famille. Jésus dit là que les pharisiens, ils croient dans l'amour. Ils croient dans l'amour, bien sûr, ils sont capables d'amour. J'imagine pas les pharisiens sans amour. Bien sûr qu'ils avaient de l'amour. Mais ils ne donnaient pas cet amour à ceux qui les avaient blessés. Ils ne le donnaient pas aux étrangers. Ils ne le donnaient pas aux marginaux. Il ne faut quand même pas me demander d'aimer des gens avec qui j'ai rien à faire. Vous rappelez le frère qui disait, non, le chinois, c'est pas mon prochain, ils sont trop loin. Jésus, il exige le déraisonnable, l'inaccessible, l'extraordinaire. Jésus veut que nous renoncions à toutes les limites et qu'on mette en œuvre un amour qui est constructif envers tous. Comme Dieu le fait. Sur terre, tout en sachant qu'arrivera un jour dans le ciel, de là où nous venons, il y aura un jugement définitif. Qui est déjà prononcé, en fait. Qui est déjà prononcé. Ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu sont déjà jugés. Et nous qui croyons, nous sommes déjà jugés et acquittés. Mais il fait quand même le bien pour tous. Il ne faut pas dire qu'il est complètement crétin puis qu'il ne se rend pas compte. Il se rend compte. Il sait bien. Ça, c'est un ennemi. Ça, ce n'est pas un gentil. Mais je vais quand même faire tomber de la pluie sur son champ. Je vais quand même faire venir le soleil sur son champ. Lui donner des chances encore. Vous voyez? Mais quand même, à la fin, et puis il sait. Nous encore, on ne sait pas exactement la fin. Alors il dit, jugez pas, vous ne connaissez pas ni les tenants ni les aboutissants, ne jugez pas. Mais soyez parfaits. Nous nous sommes sanctifiés, nous avons été sanctifiés par lui, nous avons été mis à part pour le suivre dans cette perfection et pour arriver au but qui est cette perfection. Comme Dieu le fait. Alors, cela ne peut pas exister à moins que le Saint-Esprit qui a écrit la loi dans notre cœur puisse se manifester au travers de nous. Cela est impossible, ça n'est possible que si la sève, c'est-à-dire la vie de la vigne, elle passe dans les sarments au travers de nous. Nous sommes ces sarments. Alors je vous pose la question maintenant. Où est notre libre arbitre dans cette affaire? Où est notre liberté dans cette affaire? Nous n'avons pas de liberté. Nous n'avons pas la liberté d'éviter les exigences de Dieu. Elles passent en nous. C'est notre nature maintenant. C'est pourquoi il dit, l'idolâtrie et la résistance, c'est les pires des péchés. Parce que nous sommes tenaillés qu'on vient de me dire le contraire. Un véritable chrétien, il est tenaillé par sa faim et sa soif de justice. Mais encore faut-il qu'elle soit selon Dieu et non pas simplement inspirée par ce que c'est que la justice du monde. Cette justice, alors elle va s'exprimer par la pureté, elle va s'exprimer par l'honnêteté, elle va s'exprimer par l'amour, c'est des choses, voilà, qui, et toutes ces choses-là, elles vont manifester notre appartenance au royaume de Dieu, un royaume qui n'est pas d'ici. C'est-à-dire que notre façon de nous comporter ne peut pas jouer avec le système ici. Ça ne va pas. On va rencontrer de l'opposition, véritablement. Et c'est ça que le prophète dit quand il dit « Il faut que vous prolongiez les jours de Jésus » dans Ésaïe 53. Nous prolongeons les jours de Jésus. Mais quand on fait ça, on provoque l'opposition obligatoirement. Jésus le savait, il a dit « Mais pour plusieurs, je vais être une occasion de scandale. » C'est normal. On ne peut pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse par nous-mêmes. On ne peut pas. C'est pourquoi Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, il faut que sa vie coule en nous. Il faut que sa vie coule par nous. Sa vie, sa sève, sa vie. Sa sève qui transforme tout cela en fruits que Dieu peut récolter et qu'il veut récolter. Souvenez-vous, quand il vient, puis qu'il voit qu'il n'y a pas de fruits, il dit « Il faut l'enlever cet arbre-là. Il ne sert à rien, prendre la place pour rien. » « Oh Dieu, c'est vraiment juste ça ?» Oui, l'homme. On va faire un trou, je vais faire un trou, je vais encore mettre du fumier autour pour que peut-être dans un an, si dans un an vraiment il ne porte pas, voilà. C'est bien, c'est gentil, c'est formidable. C'est même osé. Moïse, il a osé reprendre Dieu en disant « Non, on ne fait pas comme ça. » C'est magnifique. Mais Dieu, il sait de toute façon ce qu'il va faire. Alors nous devons manifester de la bienveillance aussi. Le fruit de l'esprit en nous, quand la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est pas notre fruit à nous, c'est le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la production que l'esprit qui est en nous manifeste, le fruit de la sève qui vient de la vigne, qui vient de Dieu lui-même. Le fruit de l'esprit, le fruit de la vie de Dieu en nous, c'est ça, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là. Ça vient pas de nous, où est notre liberté? Mais j'en veux pas, moi, de ma liberté. Ils veulent tous leur liberté. Moi, j'en veux pas. Je veux de la sève de Jésus. Je veux de la vie de Jésus. C'est d'un miracle dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'un truc où on m'apprend ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut faire, ça il faut pas faire, dans tel cas comme si, dans tel cas comme... Non, ça c'est des principes du monde. Je veux la sève de Jésus. Je veux la vie. Je veux du vécu. Je veux quelque chose de vrai. Une grâce que Dieu donne aux siens. Et son enseignement, alors, il sert à quoi? Pourquoi il dit « aimez, faites ceci, faites cela » Eh bien, c'est pour nous faire comprendre ce qui nous arrive. Parce que s'il ne nous donnait pas cet enseignement, on ne comprendrait rien ce qui nous arrive. Mais heureusement, il a enseigné avec des mots, tout simples, que même les païens peuvent comprendre. Mais pour nous, qui vivons ces choses avec la sève de Dieu en nous, on sait ce que ça veut dire. Amen. Et que Dieu continue à nous éclairer, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions aller de plus en plus loin, et que nous puissions toujours manifester, toujours le pardon, la bonté, etc., etc. Je déclare ici que toutes les personnes qui m'ont offensé, je ne vais pas donner des noms, mais je les pardonne. Je les pardonne. Moi, ça ne veut pas dire que je vais courir. Vous ne pouvez pas me donner encore une autre gifle, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas envie. Mais je les ai pardonnés. Pourquoi? C'est dans mon intérêt et pour la gloire de Dieu. C'est tout. Vous comprenez? Ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis là ce matin. Mais je vous invite à venir encore cet après-midi pour voir le film qu'on va regarder tous ensemble. Vraiment, c'est un film. C'est un film obligatoire. Vous qui regardez la télé, vous qui écoutez Internet, procurez-vous ce film. Amish Grace. Vous trouvez ça sur Internet. Cherchez, vous trouverez. Je ne peux pas vous donner la référence. Peut-être... Franck, tu pourras me donner la référence et on la mettra sur le site pour que les frères et sœurs, les gens qui veulent, puissent trouver facilement ce film. On peut le télécharger légalement. Hein. C'est un film magnifique sur le pardon. Et vous allez voir comme c'est curieux, comment Dieu nous a envoyé ce film au bon moment alors que je suis en train d'enseigner ces choses-là. Ça correspond tout à fait. C'est magnifique, ça va en profondeur dans ces choses-là. Dieu ne nous demande pas l'impossible, il nous demande l'extraordinaire. Il ne peut pas nous demander l'impossible, ça serait injuste. Mais il nous demande l'extraordinaire, et ça on peut le faire parce qu'il est en nous, et lui il est extraordinaire. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Jésus de nous aider à comprendre ces choses. Que ces choses miraculeuses, profondes, spirituelles, réelles, authentiques, vraies, qui viennent de ton cœur jusqu'à nous, puissent se manifester encore davantage. Que nous n'opposions pas une résistance à ton esprit, mais que nous soyons ceux qui manifestent de plus en plus cet amour, cette bienveillance à l'égard de ceux qui nous haïssent, qui nous critiquent, qui nous jugent, qui nous taxent mal. Merci Seigneur Jésus de nous aider à être dans la joie aussi par le Saint-Esprit au milieu de toutes sortes de tribulations. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.